Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 et la semaine dernière, une délégation de 17 Québécois et Québécoises ont tenté, donc notamment jeudi dernier vers 9h heure locale, d'entrer dans la bande de Gaza. Et tout ça après un parcours à travers Israël et les territoires palestiniens occupés de la Cisjordanie depuis dimanche dernier. Ils sont revenus ce week-end et l'un d'entre eux est avec nous ce matin pour revenir sur cette expérience, sur les raisons aussi qui les ont amenés en ce sol et sur ce qu'ils en ont rapporté. Alors, l'un des membres donc de la Coalition de Québec pour la paix en Palestine, Michael Lessard, bonjour.
Bonjour.
Alors, mais peut-être pour nous mettre en contexte au départ, on pourrait revenir, prendre une petite minute pour revenir sur la situation là-bas en Palestine, en bande de Gaza.
Mm-hmm. Ben d'abord, je pensais faire une mise en contexte très rapide là, pour le situer moins sur la carte. Dans le fond, imaginez qu'autour de Jérusalem, pensez aux villes de Bethléem, Nazareth et compagnie, c'est la grande région que jadis on appelait la Palestine. Donc, entre l'Égypte et la Jordanie. Dites-vous donc qu'à l'époque de Jésus, il y avait l'occupation romaine. Les Juifs de l'époque ont été massacrés par les Romains. Il y a eu une révolte des Juifs à l'époque. Donc, les Juifs se sont romancés à travers le monde, un peu partout. Au 20e siècle, donc en avance de 2000 ans, c'était l'occupation britannique qui finissent par partir. Il y a beaucoup de Juifs qui retournaient des alentours en Palestine. Et déjà là, il a commencé à avoir de la violence. Déjà là, il y a certains colons juifs qui utilisaient des méthodes plus violentes pour obtenir des terres. Finalement, il y a une branche plus armée, si on veut, qui a réussi à prendre le contrôle de la Palestine globalement et ils ont déclaré que ça s'appelait Israël. Aujourd'hui, c'est rendu environ 76% juifs, le reste, c'est chrétiens, musulmans, etc. Ironiquement, aujourd'hui, ces personnes-là occupent à leur tour un autre peuple. Donc aujourd'hui, c'est les Palestiniens arabes qui sont sous occupation.
Et donc c'est dans ce territoire-là, c'est dans ce contexte-là que Michael, tu t'es rendu avec donc ces 16 autres Québécois, Québécoises
ouais. Pour sur le mettre, place. Mais pour le mettre dans l'actualité, dans le fond, pensons à Gaza. Mm-hmm. Hein, c'est ça qu'on a vu récemment. Excusez-moi, je suis un peu à bout de souffle. Je suis arrivé à la course. D'ailleurs, je suis arrivé ce samedi de retour. Donc les bombardements de Gaza. Puis l'objectif principal de cette délégation-là, je pense que vous l'avez dit, de 16 personnes du Québec, c'était surtout de dénoncer le blocus. Il y a un blocus actuellement de Gaza, j'en reparlerai plus tard, mais on voulait aussi témoigner de l'occupation. Donc comment vivent les gens en Palestine dans les territoires occupés. On était donc 16. J'en nomme quelques-uns rapidement. Alors il y a des gens de la Fédération nationale, des enseignants-enseignantes du Québec, des gens donc du syndicat aussi de la Poste, Fédération des femmes du Québec, Ligue des droits et libertés. Puis pour le fun, je vais nommer les quatre de Québec, de la région. Benoît Damour, qui est professeur de philosophie au cégep Lévis-Lauzon. Myriam Beaulieu, du regroupement des maisons des jeunes de Québec. Christian Mertel, de la Poste, et moi-même, du collectif de Québec pour la paix. Essentiellement, je suis un militant pour les droits humains.
Et le voyage, on peut se lancer, on peut plonger, si on peut dire, dans ce parcours-là que vous avez fait, donc, et qui vous a mené notamment vers la bande de Gaza. Alors peut-être, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en as reçu? Je te laisse peut-être te lancer, tout simplement.
Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de m'en tenir à l'essentiel. Donc, surtout à qu'est-ce qu'on a vu. Hein? Donc, pas témoigner de qu'est-ce que j'ai lu dans des livres, mais de qu'est-ce qu'on a pu observer sur le terrain. Donc, comme vous l'avez dit, on a visité surtout la Cisjordanie, qui, essentiellement, c'est des petits morceaux de ce qui reste de la Palestine, au cœur même d'Israël. Donc, au cœur du pays israélien, c'est plein, qu'on pourrait dire, de petites îles. Donc, pas littéralement, là, mais c'est des bouts de... C'est comme des villages palestiniens séparés les uns des autres. Et ensuite, au bas, au sud, on a la bande de Gaza, qui, elle, est sous blocus et qui est contrôlée par une autorité différente. Vous l'avez souvent entendu parler, Gaza contrôlée plus par le Hamas. Mm-hmm. Les territoires occupés au centre d'Israël sont contrôlés davantage par le Fatah. Donc, c'est un peu comme deux gouvernements palestiniens différents. Mais grosso modo, j'aimerais commencer d'abord par parler de Gaza, parce qu'il y a une urgence, et c'est pour ça qu'on s'est rendu là maintenant. Quand on dit que, bon, même la Croix-Rouge et même l'UNICEF arrivent difficilement, et des fois pas du tout, à rentrer à Gaza, ça vous donne un peu une idée que c'est un blocus réel, un blocus quasi total. On a, exemple, des camions alimentaires qui ont été saisis par Israël, exemple des pâtes, spaghetti et compagnie, sous prétexte que ça serait un produit de luxe. Mm-hmm. J'ai parlé à la frontière même de ce blocus-là, on s'y est rendu, sachant très bien qu'on s'est bloqué. On a été invité par une agence des Nations Unies, on a tenté d'obtenir le permis et on a été bloqué malgré tout. Et il y avait un monsieur de Médecins sans frontières qui était là. Je lui posais des questions. Il me dit essentiellement, on laisse le minimum de médicaments et le minimum de nourriture rentrée pour maintenir les gens vivants, mais pas plus.
Donc, on ne veut pas nécessairement avoir une population en santé, là.
Non. Donc, essentiellement, il semblerait que la stratégie, c'est sûr que s'il y a beaucoup de décès, ça va créer un outrage mondial. Donc, il provoque des souffrances et des limites sévères. Hier, si je ne me trompe pas, l'Organisation mondiale de la santé a demandé la levée du blocus. Le secrétaire général des Nations unies a demandé la fin du blocus. Les hauts fonctionnaires des Nations unies et les agences humanitaires considèrent que c'est une violation du droit humanitaire, donc un crime. Et malgré tout, les médias de Québec décident que ce n'est pas important. Hein, on a beau se rendre à la porte du blocus en tant que tel à Gaza, on a beau se rendre à Cisjordanie et manger du gaz lacrymogène israélien, nous-mêmes, des Québécois, Québécoises, le Journal de Québec, le Journal Le Soleil considèrent que c'est pas d'actualité. Qu'est-ce qu'on s'est fait bien expliquer finalement, et c'est pas nouveau, on le sait, s'il y a pas explosion du sang, s'il y a pas des morts d'hommes physiques évidents, les médias considèrent que c'est pas important. Donc on peut étouffer une population complète, environ 1 million d'êtres humains, tant que c'est pas trop sanglant, les médias considèrent que c'est pas d'actualité.
Mais surtout qu'on en a beaucoup parlé avec la guerre, pourrait-on nous dire. Alors, dans le fond, ça se résorbe un peu. Mais, Michael, comment c'était un peu la frontière? Comment c'est organisé? Quel regard un peu t'as porté sur ce lieu-là, dans le fond, qui devient un mur, littéralement, entre deux populations, une prison? On parle de prison à ciel ouvert, là, pour Gaza, chez certains, du moins.
Quand on arrive à l'entrée de cette frontière-là, ça ressemble à un énorme aéroport international militaire. Donc, on a un grand mur. On a quelques soldats armés qui ont plutôt l'air des agents spéciaux. Bon, ça ressemble un peu à ça. Il y a une apparence de bureaucratie. Hein? On nous dit que ça prend un permis pour rentrer, alors que quand on pose des questions, on se rend compte qu'en réalité, c'est arbitraire. Ils décident à la pièce, selon leur stratégie politique, qui peut rentrer et qui ne peut pas rentrer. Nous, ce qu'on a fait, en tout cas, c'est qu'on a fait une sorte de mini-manifestation. On avait une banderole demandant la levée du blocus. On n'est pas resté trop longtemps, parce qu'on savait pas trop là les forces de défense israéliennes, là, comment ils vont réagir. Donc, on a fait une petite action, puis on est parti.
Et effectivement, parce que dans le fond, on se sentait pas nécessairement en sécurité, entre guillemets, à agir, utiliser une liberté d'expression ou des choses comme ça dans cet endroit-là.
Ouais. Ben, en fait, en Israël, nous, comme touristes, si on veut, là, entre guillemets, on n'est pas trop sûr qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Normalement, les touristes ne visitent pas les territoires occupés. Et on le sentait. On le sentait que t'es pas supposé de voir les Palestiniens, t'sais. Ça, je pourrais en reparler peut-être plus tard, là, mais j'avais soit le sentiment qu'il fallait pas en parler, hein, que si on osait mentionner qu'on voulait visiter les Palestiniens et leur poser des questions, on avait peur d'être bloqué, de pas pouvoir rentrer même en Israël. Donc, ça vous donne un peu une idée du climat d'état de guerre, hein, quelque part.
Et ben notamment, on parle de territoires palestiniens occupés. C'était pas nécessairement donc chose évidente en termes de discours de dire ben ok, on veut aller là, on va aller rencontrer ces gens-là. Comment ça s'est passé sur le terrain? Comment le contact s'est fait aussi sur le terrain?
Ben, en fait, nous, on est passé par des Israéliens qui dénoncent l'occupation. Actuellement, ils sont plutôt marginalisés. Hein, les mouvements, je pourrais peut-être en parler plus tard, mais les mouvements, disons, anti-guerre ou anti-occupation ou anti-racistes, puisqu'il y a un problème de racisme quand même important dans ce conflit, c'est les Israéliens qui nous permettent de voyager, puis de se promener, qui nous permettent de passer facilement les checkpoints. Donc, les points de contrôle, il y en a, je ne sais plus combien, là, j'ai perdu le compte. Mais grosso modo, comme je disais tantôt, c'est des villages palestiniens coupés les uns des autres, coupés par des autoroutes réservées aux Israéliens. Dans certains cas, on a, comme vous le savez, le mur de séparation, des clôtures militaires un peu partout, et des colonies de gens qui rêvent à ce que... Il y a des gens qui veulent qu'Israël soit purement juif, qui créent des colonies un peu partout. Donc, on zigonne à travers ces villages-là. Mais j'ai un exemple concret que je trouve intéressant. C'est le village de Belin. Intéressant parce que, bon, ils ont usé des moyens non violents, des tactiques légales pour se défendre d'une colonie qui, agressivement, venait construire le mur de séparation. Si on veut, souvent, il fait un trajet qui vise à voler des terres. Dans ce cas-ci, il rentrait là, un bon 4,5 km à l'intérieur d'une zone interdite et il allait chercher finalement la zone agricole de ce village-là, par exprès. Les Palestiniens n'ont pas les moyens armés ou autres pour se défendre. Elle faisait donc des manifestations non violentes, mais l'armée israélienne avait des armes quand même assez sophistiquées, donc c'était pas très efficace, c'était plutôt dangereux. Il y a déjà des milliers de blessés dans ce village-là. Donc finalement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à étudier le droit pour faire valoir leurs droits, justement. Donc, entre autres, il y a des entreprises québécoises et canadiennes qui sont poursuivies par ce village-là, hein, donc des entreprises d'ici, qui construisent cette colonie illégale. Illégale selon le droit national, mais aussi un peu selon le bon sens. Ils ont aussi réussi, étrangement, à étudier le droit israélien. Je dis étrangement parce qu'Israël invente un peu ses lois au fur et à mesure. Elle a tous les pouvoirs, hein, quelque part, Israël. Donc, c'est intéressant. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dépassé la nuit, subtilement, ils ont dépassé le mur, puis ils ont réussi à construire une petite maison. Ils ont improvisé une petite maison en respectant les lois israéliennes. La fondation est en béton, ils ont respecté les règles techniques pour que ce soit considéré une maison que tu ne peux pas détruire n'importe comment, ça prend un permis. Ça l'a forcé la justice israélienne à reconnaître, tiens, il n'est pas supposé d'avoir de maison là, donc la colonie aussi est illégale. Donc, ils ont réussi à mettre les Israéliens dans le pétrin avec leurs propres lois, et pour l'instant, ça fonctionne. La colonie est gelée, et là, sont devant la justice, ils sont en train de gérer ça. Est-ce qu'ils vont gagner? Tout le monde est un peu pessimiste parce que vraiment, ils n'ont pas vraiment de pouvoir.
Ça devient, dans le fond, c'est un recours intéressant, donc qui reste aussi dans l'action non violente au bout du compte.
Ben absolument, ça devient une lueur d'espoir pour tous les Palestiniens qui ont très peu, comme je disais, de droits et de pouvoirs. Et ça attire beaucoup des gens comme nous, hein, à l'international. À chaque semaine, il y a une manifestation où ils avancent vers le mur. Il y a beaucoup de gens, d'Israéliens aussi, hein, d'Israéliens contre l'occupation et des gens d'autres le monde qui vont les supporter. Nous, on était là, avec nos drapeaux québécois et canadiens. L'objectif, c'est que le soldat israélien, quand il voit ça, modère ses transports. Donc, on a mangé beaucoup de gaz lacrymogène, mais sans plus. Je dis sans plus, parce qu'ils ont tout un arsenal, là. S'il n'y a pas d'observateurs, parfois, il y a des décès. Il y en a eu un il y a environ 3 semaines. Un jeune homme du village qui s'est fait tirer à bout portant par un gaz lacrymogène. Il faut savoir que c'est une grosse balle, là. Normalement, tu n'es pas supposé tirer directement sur la personne. Il est mort pratiquement sur le coup, sans compter les milliers de blessés. Donc, c'est important qu'il y ait des gens qui soient là.
Et visuellement, en fait, tu parlais du mur, justement, mur donc qui sépare, au bout du compte, les territoires, les colonies des territoires palestiniens. Comment ce mur-là s'intègre dans le paysage? Comment on le perçoit? Là, j'imagine que ça t'intègre plutôt mal, mais...
Ça a l'air d'une prison. En fait, ironiquement, à un moment donné, on a passé sur le bord d'une prison et on s'est rendu compte que la structure, les murs extérieurs étaient identiques. Identiques, là. C'est la même architecture que le mur de séparation. Donc, non, c'est pas esthétique, là. Ça se veut un mur qui a l'air militaire, qui est militaire, hein. Il y a des parties du mur qui ont des mitrailleuses automatiques, il y a des secteurs minés, etc., là. Dans ce cas-ci, c'était plus une clôture. Mm-hmm. C'était plusieurs clôtures avec des soldats derrière.
Donc, tout dépendant, dans le fond, du niveau où on est rendu côté construction, dans le fond, dans le territoire.
Oui. En fait, les parties très mûres qu'on voit, c'est généralement plus de frontières importantes, là.
Okay.
Plus près d'intersections d'autoroutes majeures.
Et dans tout ça, parce qu'en fait, il y a toujours la question des rapports entre peuples. On a l'impression et on le sait, en fait, des Israéliens qui sont pour, justement, le dialogue, pour qu'il y ait éventuellement création d'un État palestinien. En Palestine, il y a des gens aussi qui sont pour le dialogue. Il y a les modérés, il y a les extrémistes. Il y a eu montée, à une certaine époque, des extrémismes en Palestine, du moins, c'est l'impression qu'on en avait à l'international. Présentement, avec Benjamin Netanyahou, on a l'impression que c'est peut-être plus, justement, une voie plus à droite qui est en train de monter en Israël. Comment se passent un peu les relations entre les peuples?
Bon,
de ce que t'en as perçu, là.
Pendant notre 7 jours, on a parlé à beaucoup de gens. En fait, c'est ça qu'on faisait constamment, intensivement, interroger, écouter les témoignages, incluant d'Israéliens. Ça saute aux yeux. C'est pas un secret, je crois, que l'extrémisme plus raciste, faut le dire malheureusement, mais aussi bon, la montée de l'idée qu'Israël devrait être purement juif et donc qu'on devrait convaincre les Arabes de partir de différentes manières. Ça, malheureusement, ça s'est aggravé. C'est en montée. Ça saute un peu aux yeux, là. Donc, je dis pas que c'est la majorité des Israéliens. Je dis par contre que les groupes extrémistes, racistes, qui veulent que ce soit uniquement juif, ont le beau jeu actuellement. Avec le gouvernement en place, ils arrivent à faire avancer des lois très restrictives. Ils arrivent à utiliser toutes sortes de tactiques de répression, de vol de terre, de différentes manières, et ça passe. Et la population, faut voir finalement que autour de 2000, il y avait l'intifada, donc une révolte populaire palestinienne, où beaucoup de bombes avaient sauté en Israël. Les roquettes du Hamas, je dois dire que les roquettes du Hamas ont tué pratiquement personne, sauf que ça a créé un climat de guerre. Dans la psychologie des Israéliens, lorsqu'une roquette qui arrive vers leur village, évidemment, ils se réfugient dans un bunker, ils se protègent. Même si personne meurt, à la longue, ça a créé une grande colère, une grande peur aussi. Et le résultat, c'est ça, c'est que la population appuie maintenant l'idée que les Arabes n'ont peut-être pas leur place en Israël. Donc ça, c'est une aggravation. Je suis optimiste dans le sens que je me dis que ça ne peut pas durer longtemps. Je présume qu'il y a une modération qui va venir. Ça, c'est pas viable. De toute manière, il y a à peu près 4 millions d'Arabes en Israël qui, eux, sont environ 7 millions. Vaguement, j'arrondis les chiffres beaucoup, là. En fait, il y a environ 5 millions de personnes juives et sur à peu près 11 millions de personnes. Donc, c'est impossible. Ils sont incapables de se débarrasser des Arabes, même si certains extrémistes tentent de le faire. Donc, il y a de l'espoir. Puis là où il y a de l'espoir, surtout, c'est que le discours palestinien a beaucoup changé. Il est beaucoup plus modéré. La raison est très concrète, par contre, et nous le disent, on n'a aucun pouvoir. Là. C'est pas par la force armée ou par la violence qu'on va arriver à quoi que ce soit. On l'a vu justement avec les roquettes du Hamas. C'est pas fonctionnel. Donc, le discours actuel, qui est très positif, c'est de passer par l'éducation, la culture, par la solidarité internationale, par la communication. Donc, ils se disent, en parlant l'anglais, le français, on va réussir à faire en sorte que les médias présentent qu'est-ce qu'on vit concrètement. Et donc, ils ont espoir à ce niveau-là.
Et en terminant, Michael Lessard, militant pour les droits de l'homme, qu'est-ce que tu aimerais qu'on en retienne tout particulièrement de ce séjour que tu as fait, des questions, des réflexions que tu aimerais qu'on garde en tête justement au terme de tout ça?
Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais moi, ce qui m'interpelle, entre autres, c'est que les mouvements israéliens qui luttent pour plus de justice, luttent pour de l'égalité entre tous les citoyens, citoyennes, peu importe leur religion, qui luttent contre le racisme, finalement, nous interpellent. Ils nous disent, actuellement, on est extrêmement marginalisé, réprimé. On a besoin vraiment de l'appui international. Les gens qui luttent contre l'occupation ou qui veulent juste parler de qu'est-ce que vivent les Palestiniens, la police confisque leur ordinateur, etc. Donc, je pense que ça, c'est important à retenir. Il faudrait peut-être rentrer en dialogue avec les Israéliens puis voir s'il n'y a pas moyen de calmer les ardeurs. Et évidemment, l'inverse est vrai aussi. Il y a de l'espoir du côté palestinien avec des stratégies d'éducation et de culture. Il faut les encourager, il faut les appuyer. Mais honnêtement, ce que j'en retiens, et je ne suis pas tout seul, c'est un problème de médiatique. C'est un problème des médias. La guerre passe à la télévision. Tout ce que les Palestiniens font de bien ne passe pas à la télévision. Et même, j'en parlais tantôt, le blocus imposé à Gaza, qui, à mon avis, tue probablement plus de gens que les bombes, ça passe inaperçu. Le Journal de Québec a dit que c'était pas important.
Donc, ça s'agirait peut-être de changer un peu le regard qu'on porte, in fine, là, sur ce conflit-là, de s'y intéresser. Oui. Si la pression se fait à l'international, éventuellement, il va avoir obligation de faire ce dialogue-là.
Absolument. Puis, qu'est-ce qu'on a entendu? Il y a un espoir actuellement de cohabitation, malgré tout.
Ah, ben voilà, on revient avec l'espoir. En fait, c'est positif pour nous, ici, qui s'intéressons à cette situation là-bas, de voir un peu qu'au terme de ce voyage-là, on se dit, ben, il y a encore beaucoup de difficultés, il y a encore beaucoup d'embûches, mais il y a quand même possibilité, justement, de rester optimiste face à ça. Alors, on garde ça en tête. Et est-ce qu'il va y avoir un site internet, des choses comme ça, des ressources pour approfondir un peu la réflexion qu'on vient de partager ce matin?
Ben, c'est certain qu'on va avoir beaucoup de films, beaucoup de vidéos, et éventuellement aussi peut-être une sorte de livre. Mais on vient de revenir, donc on va travailler là-dessus.
Merci Michael beaucoup. Lessard, militant pour les droits de l'homme, merci beaucoup.
Très plaisir.